Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En 2001, Les Chemins de la Connaissance consacrait une série de 5 émissions au chef-d'œuvre de Lewis Carroll, Alice au Pays des Merveilles. Dans le troisième volet de cette série, Françoise Esteb recevait Jean-Jacques Lecercle, linguiste et philosophe du langage, spécialiste de Lewis Carroll, Jean Perrault, professeur de littérature comparée, et Hélène Rio, traductrice d'Alice. Dans ce troisième volet, c'était sous l'angle du nonsense, ce genre littéraire typiquement anglais, qu'était abordée Alice. Alice, qui tenait la main de Gilles Deleuze, écrivant sa logique du sens, dans laquelle Lewis Carroll jouait les premiers rôles, lui qui, selon Deleuze, a fait le premier grand conte, la première grande mise en scène des paradoxes du sens, tantôt les recueillant, tantôt les renouvelant, tantôt les inventant, tantôt les préparant. Alice, ou la logique du nonsense, troisième temps de la série Le retour d'Alice au Pays des Merveilles, proposée par Françoise Esteb dans Les Chemins de la Connaissance, en janvier 2001.
Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Je vais être en retard! Oh mon Dieu!
Cependant, je consens à vous donner un renseignement. Un côté vous fera devenir plus grande.
Un côté de quoi?
L'autre côté, au contraire, vous fera rapetisser.
Mais l'autre côté de quoi?
Du champignon, pauvre sotte!
Un des côtés devrait me faire grandir. Mais lequel des deux? Après tout ce qui s'est passé, je ne sais si c'est prudent. Oh, nous verrons. Je commence à en avoir assez d'être une naine.
Le nonsense, Jean-Jacques Lecercle, était un genre littéraire. Et alors, c'était un genre littéraire que vous qualifiez de genre révolutionnaire conservateur.
Oui, alors, d'abord, c'est un genre littéraire qui est largement créé par Lewis Carroll. C'est-à-dire, le nonsense en tant que genre littéraire, c'est une création, comme tous les genres littéraires, a posteriori, vers la fin du siècle, à partir de l'œuvre de Carroll, mais pas seulement à partir de l'œuvre de Carroll. Il y a aussi un autre grand auteur de nonsense qui était Edward Lear. Et à partir de ces deux œuvres majeures, plus de textes qui sont apparus dans la même conjoncture, on a fabriqué ce nom et on a fabriqué un genre qui a eu une descendance assez importante. Alors pourquoi je dis que c'est un genre révolutionnaire conservateur? C'est que il y a dans le nonsense vis-à-vis des normes du langage, mais aussi des règles de la société, par exemple, incarnées en l'occurrence par les règles de la conversation, une attitude double et ambiguë. D'un côté, il y a une attitude subversive, le nonsense cherche à subvertir les règles. Le non-sens, c'est effectivement, on dit des choses qui n'ont aucun sens. Et donc on subvertit les règles de la construction du sens dans des phrases bien faites. Mais en même temps, on fait ça de façon temporaire et d'une façon qui, en fin de compte, finira par conforter les règles en question. Ce qui me frappe dans les textes du non-sens, c'est qu'il y a un niveau du langage qui est en général le niveau sémantique, c'est-à-dire le niveau du sens qui est subverti, mais que tous les autres niveaux linguistiques, celui de la syntaxe, celui de la phonétique, sont au contraire l'objet d'une grande normativité. Ce qui me frappe en particulier, c'est que ces personnages de non-sens, ou ces poèmes non-sensiques que Carroll inscrit dans son texte, sont écrits dans une langue qui est une langue très pure, qui est une langue extrêmement correcte, qui est une langue très grammaticale, et lorsque ça prend la forme de poème, avec une versification très stricte, c'est-à-dire qu'il respecte les règles de la rime, de la prosodie, comme il respecte les règles de la syntaxe, et lorsque Alice dit « de plus, tant plus curieux », il note clairement que c'est une faute d'anglais et que ça ne devrait pas se dire. Lewis Carroll, d'ailleurs, lui-même, dans ses lettres, avait, ou dans ses pamphlets, avait des fantasmes de réforme de l'orthographe anglaise qu'il trouvait souvent, comme ces choses-là sont, tout à fait illogiques. Donc il avait en fait une sorte de surmoi linguistique très fort qui lui faisait observer toutes les règles du langage, d'où cet aspect conservateur, et en même temps, il avait une impulsion libératrice très forte qui le poussait à transformer le sens au non-sens, d'où l'aspect révolutionnaire. Et ce qui m'intéresse, si vous voulez, par rapport à d'autres formes de poésie qui sont, elles, réellement destructrices du langage, c'est que le non-sens, c'est de la destruction pour conserver.
Mais ça, c'est bien l'attitude de Lewis Carroll dans la vie, qui finalement était tout à fait un homme victorien aussi, qui était un homme de son époque, qui était un homme corseté dans un certain nombre de conventions et qui se permettait une liberté fantasmatique, enfin, dans les marges de l'imaginaire, une liberté fantasmatique.
Oui, c'est un personnage curieux et en fait assez attachant parce que d'un côté, il était, c'était dans les termes d'une de ses amies enfants, une vieille fille, c'est-à-dire un homme qui était extrêmement minutieux, qui était extrêmement attaché aux bienséances.
Qui était maniaque, même.
Qui était un maniaque, qui était un maniaque terrifiant. C'était le genre de personne qui écrivait aux journaux pour se plaindre de la dissolution des mœurs, etc., etc. On a une lettre assez amusante où, ayant été présenté à une des brues de la reine Victoria, donc ayant été introduit dans les plus hautes sphères, le lendemain, il écrit à cette Altesse pour lui dire « Vous avez dit quelque chose, prononcé hier une phrase qui peut-être n'est pas totalement en accord avec les dogmes de l'Église anglicane. J'espère que je vous le dis amicalement pour que vous ne commettiez pas cet impair de nouveau. » Donc il est reçu par la bru de la reine Victoria et le lendemain, il lui écrit pour lui reprocher ce qu'elle a dit. C'est un drôle de personnage. Mais en même temps, ce maniaque terriblement conventionnel, conservateur en politique, hostile à l'admission de femmes à l'université d'Oxford, hostile à la modernisation du cursus, c'est-à-dire hostile à l'introduction des sciences dans le cursus oxonien. Oxford était à l'époque une université extrêmement réactionnaire et conservatrice, et Lewis Carroll était comme un poisson dans l'eau là-dedans. En même temps, il a deux activités légèrement transgressives. Un, c'est la photographie, ce qui à l'époque est une activité avant-gardiste et bizarre. Et deux, alors il a un amour du théâtre sur lequel il n'a jamais cédé, alors qu'il était diacre de l'Église anglicane et que l'Église anglicane réprouvait officiellement le fait d'aller au théâtre ou de s'intéresser, de fréquenter des actrices. Or, Lewis Carroll a eu une amitié très longue avec la grande actrice victorienne Ellen Terry. Il était reçu dans sa famille, s'intéressait à sa famille. Et jamais, il a vécu ça comme une contradiction et un peu un déchirement, mais il n'a jamais cédé sur ce désir-là. Donc il avait à la fois des pulsions conservatrices très très fortes, et en même temps, Dieu merci, il avait un grain, sinon d'anarchisme ou de folie, du moins d'excentricité.
Mais par rapport au théâtre, il quittait la salle s'il voyait un travesti.
Oui, bien sûr, oui, il était très à cheval sur ce qu'on pouvait dire, sur ce qu'on devait dire. Mais finalement, c'est un personnage extrêmement attachant, mais assez courant, c'est celui de l'excentrique anglais, qui normalement vit la vie la plus rangée et qui puis sur un point précis et devient complètement fou et fait des choses que la morale sinon réprouve du moins trouve bizarre.
Oh, mes aïeux, je vais être en retard moi. Oh là là là, oui. Je suis très élégant, j'ai mon chapeau, mon éventail, ma canne, mes gants de chevreau blanc, ma montre dans la poche de mon gilet. Oui, car je suis le lapin blanc, vous savez.
Ethel Hatch.
Mr. Dodson, nous l'appelions toujours Mr. Dodson, était grand et mince, avec des yeux d'un bleu clair. Les coins de sa bouche retroussée lui donnaient une expression dantesque, comme s'il songeait à quelque chose de drôle. Même en prenant de l'âge, ses cheveux griffaient ne blanchir jamais. Il était vêtu, comme les clergymen de l'époque, d'une longue redingote noire, une cravate plastron blanche et un chapeau haute forme qu'il portait plutôt en arrière de la tête. Nous le rencontrions souvent l'après-midi en promenade, car il avait coutume de faire un tour à pied, soit avec un de ses collègues du collège, soit avec une petite fille de ses amis, dans les parcs ou dans la campagne des environs. Nous étions toujours ravis quand il nous rendait visite à l'improviste. Mais il ne venait jamais quand on l'invitait.
Ça alors, j'ai déjà vu des chats sans sourire, mais des sourires sans chat, jamais. C'est bien la chose la plus curieuse que j'ai vue de toute ma vie.
Alors, la folie de Lewis Carroll s'exprime notamment dans le nonsense. Alors, comment traduiriez-vous ce mot, Jean-Jacques Le Cercle ? Parce que ce n'est pas le non-sens, ce n'est pas ça du tout.
Moi, c'est un mot que j'utilise en anglais dans le texte, comme le nom d'un genre littéraire. Ce n'est pas vraiment la même chose que le non-sens, parce que si on parle de non-sens, on a l'impression qu'on va avoir une salade de mots. Vous prenez une phrase, vous secouez les mots comme dans un cornet à dés, vous les sortez dans n'importe quel ordre, ça fait du non-sens, votre phrase n'a plus aucun sens. Or, il n'y a pas ça dans le nonsense, il n'y a jamais ça, il n'y a jamais de salade de mots, il y a simplement des déviations contrôlées, et le plus souvent fort amusantes, de l'utilisation normale du langage. Donc c'est un travail sur la langue qui souvent d'ailleurs est un travail qui montre une conscience du fonctionnement de la langue qui est très en avance sur celle des linguistes professionnels. Il y avait chez Lewis Carroll un très grand grammairien qui avait 100 ans d'avance. Quelquefois, il nous fait voir des choses sans naturellement les expliquer, que les grammairiens de son époque étaient incapables d'expliquer, et qu'on ne sait expliquer, en gros, que depuis Chomsky, c'est-à-dire plus de 100 ans après.
Donc là aussi réside la modernité de Lewis Carroll.
Oui, bien sûr. Il y a dans cette attitude vis-à-vis du langage, il y a à la fois l'appartenance à une tradition de philosophie du langage très, très forte en Angleterre, mais aussi une anticipation des développements de la linguistique et de la philosophie du langage. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, très souvent dans des textes de philosophie du langage contemporain, on trouve des citations d'Alice ou une utilisation des paradoxes de Carroll ou de scènes tirées d'Alice. Il fournit en quelque sorte, longtemps avant, des tas d'illustrations à des théories philosophiques qui sont, elles, de strictement contemporaine.
Mais vous ne m'avez toujours pas traduit, Jean-Jacques Le Cercle, le terme de nonsense. Alors, est-ce qu'on peut dire absurde ?
Non, je ne veux pas non plus le traduire par absurde. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est
vous
que je
ne
veux
pas
le traduire. Je
ne veux pas le traduire.
Je ne veux pas non plus le traduire par absurde, parce que si on parle d'absurde, surtout dans notre contexte, on est dans quelque part du côté de la philosophie de l'absurde, c'est-à-dire quelque chose qui est singulièrement effrayant. Là non plus, si vous voulez, je pense qu'il n'y a pas vraiment dans le nonsense ce degré d'angoisse existentielle que la philosophie de l'absurde véhicule. Ce n'est pas la scène absurde décrite par Camus, c'est-à-dire le personnage qui parle dans sa cabine téléphonique mais qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, donc dont on ne sait pas ce qu'il dit. Ce n'est pas un personnage de nonsense. Les personnages de nonsense parlent beaucoup, mais on entend tout ce qu'ils disent et on comprend tout ce qu'ils disent. Et finalement, l'attitude du lecteur devant le nonsense anglais, c'est celle qu'a Alice au début du second conte lorsqu'elle lit dans le miroir le poème qui s'appelle en français Jabberwocky. Jabberwocky. Et elle dit, je comprends pas ce que ça veut dire, mais ça me donne des tas d'idées. Le nonsense, c'est ce qui nous sort du bon sens et du sens commun, mais qui en fait nous fait entrer dans une dimension qui est celle du sens. Alors il y a un philosophe qui a décrit ça de façon admirable, c'est Gilles Deleuze, dans son livre La logique du sens, qui est une lecture conjointe des stoïciens et de Lewis Carroll. Et lui, effectivement, il montre que le non-sens et le sens, au sens un peu technique où il l'entend, c'est la même chose. Et c'est le contraire du bon sens et du sens commun, c'est-à-dire du langage dans lequel on est englué.
Je crois que c'est Jean Gattegno qui traduisait le terme de nonsense par sens déréglé.
Oui, bien sûr. Alors, c'est effectivement une traduction qui conviendrait tout à fait, sauf que c'est une périphrase, et donc c'est un peu difficile, à manier. Mais un sens, l'avantage du mot sens déréglé, c'est que d'abord, il y a le mot sens, donc on est effectivement dans le domaine du sens, Et d'autre part, on peut prendre le mot déréglé comme une dénégation, c'est-à-dire c'est déréglé, mais c'est déréglé parce qu'il y a des règles. C'est vrai que c'est difficile de se sentir libre à partir vis-à-vis du langage. La seule chose qui nous libère complètement du langage, c'est le délire. Mais à ce moment-là, il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie psychique réelle non plus. Le nonsense ne fait pas ça, il ne sombre jamais dans le délire.
Hélène Rioux.
Je pense qu'il y a un ordre, un système du nonsense. C'est des personnages qui mènent toujours à bout une logique qui est complètement illogique pour nous. Comme par exemple de recommencer, ils sont prisonniers du temps, donc ils prennent le thé, ils n'arrêtent pas de reprendre le thé, et puis quand ils ont sali une tasse, et ben ils vont à côté où la tasse est encore propre et ils recommencent.
Je voudrais une tasse et une assiette propre. Tout le monde, bouge !
Finalement, cela ne me plaît pas autant que je le pensais de prendre le thé avec vous.
Jacques Lacan.
Je voudrais dire ce qui m'apparaît la corrélation la plus efficace à situer Lewis Carroll, c'est l'épic de l'ère scientifique. Il n'est pas vain qu'Alice apparaisse en même temps que l'origine des espèces dont elle est, si l'on peut dire, l'opposition. Registre épic, donc, qui sans doute s'exprime comme idylle dans l'idéologie. La corrélation des dessins dont Lewis Carroll était si soucieux nous annonce les bandes. J'entends les bandes dessinées.
Raconte-nous une histoire.
Je n'en connais pas, désolée.
Alors, Loirounet va en raconter une.
Réveille-toi, petit Loir.
Moi, je t'ai pas endormi. Non, j'ai entendu tout ce que vous avez dit. Oui, tout ce que vous avez dit.
Loirounet, raconte-nous une histoire.
Oui, je vous en prie.
Mais raconte-la très vite, sinon tu vas t'endormir avant de l'avoir fini.
Il était une fois trois sœurs qui s'appelaient Elsie, Lassie et Tilly. Et ces trois sœurs vivaient au fond d'un puits.
De quoi se nourrissaient-elles?
De quoi se nourrissaient-elles? De mélasse.
Mais ça les aurait rendues malades.
Jean Perrault.
Mais elle l'était.
Alors, la fantaisie est un genre typiquement anglais. On la voit triompher aujourd'hui avec Harry Potter et d'autres. Alors, la fantaisie, je crois qu'elle elle vient, bien sûr, de très loin, mais de Shakespeare avant tout. Je crois que le songe d'une nuit d'été, et Bruno et Sylvie, c'est une transposition du songe d'une nuit d'été. Vous voyez cette fameuse scène avec Button transformé, enfin l'âne qui vient là créer un univers à part, un univers de liberté totale. Mais c'est aussi ces Purcell, ces Didon aîné transposés dans la vision baroque de Purcell aussi. Donc la fantaisie, c'est un genre très très à part, c'est-à-dire qui conjoint un départ dans le réalisme et qui ensuite nous fait passer dans un autre univers. C'est un peu différent du conte de fées. Le conte de fées s'exerce dans un monde tout à fait à part, avec des règles à part, tandis que la fantaisie introduit une perméabilité entre le réel et le merveilleux. Et c'est ce passage permanent du réel au merveilleux qui fait, je crois, toute la séduction d'Alice. Et Alice est quand même, enfin, toujours la référence de l'univers fantaisiste, de la création fantaisiste.
Mais vous liez, Jean Perrault, la fantaisie et le nonsense ?
Indirectement, oui, puisque le dérèglement de la fantaisie est tel qu'on aboutit à des absurdités. On aboutit au contraire de ce qui est la loi, le principe de réalité, pour entrer dans le principe de plaisir. Je crois que c'est ça, là, finalement. Si on a dit que Lewis Carroll, là je pense aux travaux de Sami Ali sur l'espace imaginaire. L'espace imaginaire, dit Sami Ali, est un espace à deux dimensions qui nie la troisième dimension, parce qu'on resterait dans un univers de relations fusionnelles avec la mère, vous voyez, c'est-à-dire que finalement l'imagination, si on pense que l'imaginaire c'est quelque chose qui c'est un écran comme l'œil sur lequel se projettent les images, et on dit que le nourrisson au départ voit le monde comme un écran qui est le substitut du sein, c'est le sein devenu lumineux, enfin écran lumineux. Lewis Carroll a continuer, notamment dans l'autre côté du miroir, à cultiver ce monde de l'ambiguïté, ce monde de la relation fusionnelle qui détruit, ou enfin, qui nie la troisième dimension, ou qui la réintroduit subrepticement, ou avec des clins d'œil. Et la fantaisie, elle est là, dans cet univers entre deux, ni vraiment enfin, soumis au principe de plaisir, ni vraiment soumis au principe de réalité. Et on va de l'un à l'autre, d'où les décalages de l'humour. L'humour, c'est toujours une mise à distance. J'ai écrit d'ailleurs une introduction à un colloque sur l'humour où je me suis rendu compte que humour et jeu étaient souvent employés dans la même constellation. Quand vous parlez d'humour, il y a toujours un jeu avec, une mise à distance de. Et donc, c'est, si vous voulez, dans Shakespeare, c'est cela. Hein, les humains sont représentés sous forme d'animaux. Le baroque, c'est cela aussi. C'est le burlesque. En permanence, ce décalage entre l'être humain et l'animal qui le représente, ou réciproquement.
Tous les danseurs sont en place. Tortues, saumons, morues, tous ceux qui sont là.
Chacun un homard, il ne faut pas oublier les homards.
On fait deux pas en avant, on change de homard, et on fait deux pas en arrière.
Ensuite, on lance les
homards en l'air le plus haut possible. Et on change à nouveau de homard.
Et ça, petite fille, c'est la première figure de la danse.
C'est une très belle danse.
Oh que oui, et qui vaut son pesant d'or.
Tu veux dire son pesant d'écaille. Maintenant, c'est nous qui allons te montrer.
Le nonsense ne sombre jamais dans le chaos.
Non, c'est pas du tout. C'est un univers qui n'est pas du tout chaotique. Alors, il y a dans les contes des moments qui sont d'ailleurs les moments les plus douloureux, où on est proche du chaos. Mais dans ces moments-là, Alice réagit, c'est en général la fin du conte, parce que Alice réagit très fortement et sort du rêve ou du conte. Elle fuit, oui, tout à fait. L'épisode le plus frappant, c'est la fin du second conte, lorsque Alice, étant devenue reine, assiste à un banquet. Et c'est un banquet extrêmement bizarre, puisqu'on lui présente le rôti, mais une fois qu'on lui a présenté, elle ne peut plus le manger, parce qu'on ne peut pas... Il y a un calembour compliqué, mais on ne peut pas couper un rôti auquel on a été présenté. Et les manières de table des convives deviennent de plus en plus répugnantes et chaotiques, au point que Alice ne supporte plus ce chaos et sort du rêve, et se retrouve immédiatement du bon côté du miroir, dans un intérieur victorien douillet, et d'une désolante banalité. C'est-à-dire qu'elle perd, beaucoup. Elle gagne naturellement en évitant le moment où le chaos menace s'installer, mais elle perd cet espace de liberté qu'elle avait trouvé là-bas.
C'est étrange d'ailleurs ce rapport d'Alice à la nourriture.
Oui, c'est effectivement... Bon, alors je suppose que lorsqu'on est une gamine de 7 ans, la nourriture, c'est quand même, que ce soit sous la forme de bonbons ou sous la forme des repas réguliers, c'est quand même un aspect important de sa... De ses préoccupations. Mais c'est effectivement un aspect important parce que la nourriture, c'est lié au même orifice que la parole. Et dans sa logique du sens, Gilles Deleuze utilise beaucoup cette proximité entre parler et manger. En un sens, parler, c'est ne plus manger. On ne parle pas la bouche pleine, il ne faut pas parler la bouche pleine. Parler, c'est ne pas manger, c'est la version idéale de manger. Et il y a peut-être dans l'insistance sur la nourriture, dans les avatars de la nourriture, dans le fait que c'est les nourritures que Alice ingère au Pays des Merveilles sont et ne sont pas des poisons, puisqu'ils ont des effets bizarres sur son corps, il y a un retour très fort, quoique naturellement sublimé, du corps et donc du désir. Alors ça, c'était à l'époque victorienne et pour un diacre de l'Église anglicane, totalement impossible à dire en termes crus. Ça ne peut passer que par cette sublimation dont les psychanalystes, naturellement, ont fait leur chou gras, parce que c'est effectivement une provocation. Mais c'est tellement en réalité à la surface du texte, cette obsession de la nourriture, son rapport à la parole et son rapport au corps et à ses déformations, qu'il n'y a même pas besoin de psychanalyser Carole en quelque sorte. Il se psychanalyse déjà lui-même. Mais c'est très lié en particulier aux déformations corporelles d'Alice, dont on a dit naturellement que c'était lié ça annonçait la puberté, les transformations du corps de la femme, etc., etc.
Et dis donc, Pat, qu'est-ce que c'est que ça, là, qui dépasse par la fenêtre?
Pour sûr que c'est un bras, monseigneur.
Un bras? Espèce d'idiot. On n'a jamais vu un bras de cette taille-là. Il est aussi large que la fenêtre.
Ah, pour sûr, monseigneur. Mais c'est tout de même un bras, pour ainsi dire.
Eh bien, ce n'est pas sa place, en tout cas. Tu vas aller me l'enlever.
Et c'est très proche de la logique formelle, parce qu'il a tout le temps derrière la tête la volonté, parce qu'il était très didactique, et il était aussi très, il aimait beaucoup les petites filles, il voulait former leur esprit. Donc il essaye par ses histoires, qui sont presque des fables maintenant, quoi. D'ailleurs, Alice est devenue presque un mythe, comme les personnages de fables. Il essaye de leur faire comprendre certaines choses.
Quoi ? Parce qu'il forme leur esprit en le déformant d'abord. C'est la première des maximes.
Par le jeu, ouais. D'un côté, en racontant des histoires. Par exemple, je sais pas, il y a quelque chose de très frappant, c'est dans cette manière de faire référence au corps dans l'espace. Le corps d'Alice n'arrête pas de grandir, de diminuer. On pourrait dire que c'est une manière logique de montrer que par rapport à un milieu donné, il y a, disons, des réactions, des points de vue qui impliquent une certaine géométrie presque. Mais en même temps, c'est une manière de montrer la place du sujet dans la perception. Donc toujours de rendre presque personnel, une question personnelle, quelque chose qui pourrait être de la logique formelle, justement.
Mais qu'apprend-elle finalement Alice au cours de ce voyage ? Quel est le sens de...
Peut-être elle n'apprend rien. Peut-être... si le nonsense s'appelle du nonsense, c'est pas du sens. C'est que c'est pas si simple que ça d'en donner le sens. C'est que peut-être elle apprend que le sens ne s'apprend pas comme ça. Qu'on en fait l'expérience sans maîtriser. Que le sens n'est pas de l'ordre du savoir, c'est plutôt de l'ordre de l'expérience.
Voilà la gloire pour vous.
Mais je ne comprends pas ce que vous voulez dire par gloire.
Naturellement. Pas avant que je vous l'explique. J'entendais par là, voilà un bel argument irréfutable pour vous.
Mais gloire ne signifie pas un bel argument irréfutable.
Quand j'emploie un mot, moi, il signifie ce que je choisis de lui faire signifier. Ni plus, ni moins. Va.
La question est de savoir si vous avez le pouvoir de faire signifier aux mots tant de choses différentes.
La question est de savoir qui est le maître, c'est tout.
Ah.
Alice ou la logique du nonsense par Françoise Estève.
Tout le monde se met en place.
Avec Jean-Jacques Lecercle, professeur à l'Université de Cardiff, auteur d'ouvrages sur Alice aux éditions Autrement, Jean Perrault, professeur de littérature comparée, auteur de Art d'enfance, Art baroque aux presses universitaires de Nancy, Hélène Rio, traductrice d'Alice aux éditions Librio. Et les voix d'Ethel Hatch et de Jacques Lacan, Dominique Gère et Michel Galabru, archives INA. Coordination Xavier Carrère, avec la participation de Blandine Brica et Noémie Duneton, mixage Michel Bertin, réalisation Christine Berlamont.
Mais on dirait qu'elle a réussi.
Cette émission a été diffusée la première fois le 3 janvier 2001 sur France Culture.